Radio Kapi. Oh, Kapi. Let's Walasa à la présentation. Au sommaire ce matin sur Radio Kapi, le Burundi et la RDC ont signé un protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité lundi au Palais de la Nation à l'issue de la visite du président burundais à Kinshasa. Un tour complet de cette visite dès le début de ce journal. Affaire Mwanga Tchoutchou, le collectif de ses avocats a dénoncé un procès de la haine lors d'une conférence de presse hier lundi à Kinshasa. Ce mardi 29 août, le procès du député national se clôture avec la plaidoirie attendue de ses conseils. En Assemblée générale, lundi à Kinshasa, la synergie des organisations syndicales et sociales dresse un tableau sombre de la situation des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Cette synergie demande au gouvernement de payer un barème salarial digne. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Le Burundi et la RDC ont signé un protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité lundi au Palais de la Nation. Cet accord a pour ambition de renforcer la sécurité dans les deux pays. Outre ces accords, Évariste Ndayishimiye, chef de l'État burundais, a échangé avec son homologue congolais ainsi que leurs gouvernements respectifs sur les questions infrastructurelles, commerciales et bien d'autres domaines. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
L'accord militaire que le Burundi signe avec la RDC n'a aucunement l'intention d'interférer dans la mission que mène la communauté des États de l'Afrique de l'Est, précise Ndayishimiye. Pour lui, la RDC et le Burundi sont comme l'écorce et l'arbre et donc ils doivent préserver leurs intérêts de manière commune. Évariste Ndayishimiye.
En dehors de la mission de l'EAC, il y a d'autres missions de défense commune. Nous avons des frontières communes, nous avons des criminels transnationaux. Alors ces criminels, nous devons toujours les gérer. Les pays ont toujours leurs missions qu'ils exécutent ensemble dans le cadre de coopération bilatérale. Nous avons des intérêts communs à défendre.
Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expérience et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Des questions d'ordre sécuritaire ont également été évoquées.
L'exigence de la RDC reste la même, mais nous demandons que la force régionale soit plus active à l'image du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, il est observé un certain laxisme. C'est en substance ce que Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, affirme par rapport à l'option prise par l'organisation EAC concernant l'attitude du M23 de ne pas se conformer au processus de Nairobi. On écoute le chef de l'État congolais répondant à une question de Billy Ivan Lutumba.
Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir.
La communauté des États de l'Afrique et de l'Est tient à sa mission de mettre fin à la présence des groupes armés locaux et des surcroît à amener le groupe M23 à se conformer au processus de Nairobi. Le président en exercice de l'EAC et chef de l'État burundais en séjour à Kinshasa le déclare ce lundi 28 août lors du point de presse conjoint avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Déjà dans le communiqué final sanctionnant cette visite, les deux chefs d'État déplorent le fait que le M23 2023 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans le centre des cantonnements. Évariste Ndayishimiye s'exprime au micro de Billy Ivan Lutumba.
Nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous nous devons nous coaliser pour le contraindre à respecter le cessez-le-feu, à se désengager pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de guerre. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura. Et la région pourra quand même prendre des mesures qui s'imposent pour que effectivement le M23 est respecté. Le processus afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette région. La région aussi félicite le gouvernement congolais de ses efforts. Nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, le M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant.
Autre nouvelle à présent, en Ituri, près de 7830 ménages du territoire des Djougou affectés par les conflits armés ont bénéficié dimanche dernier de l'aide humanitaire. Ce projet de l'UNICEF, qui est exécuté par l'ONG Programme des promotions des soins de santé primaire, PPSSP, vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes, dont la plupart vivent dans des conditions difficiles sur divers sites. Ils ont reçu les articles ménagers essentiels, des médicaments et des bâches pour la construction des abris d'urgence. C'est un reportage de Jean-Claude Loki-Dillet.
Ce sont les familles déplacées des sites de Djangui, Gobi, Ladejo et Laoujo qui ont bénéficié de cette assistance. Selon le chargé de communication de PPSSP, ce don est constitué des articles ménagers essentiels, des kits d'hygiène intimes pour les femmes en âge de procréation et des bâches. La liste n'est pas exhaustive, comme l'indique Trésor Muyumba.
Il y a eu aussi l'assistance en santé, notamment à Djangui. Là, le projet UNICEF Réponse Rapide a doté de médicaments et une tente de 48 mètres carrés pouvant aider comme maternité à Laoujo et Gokwade. Là, on a donné des lits, de matelas en cuir.
Naomi Zve, âgée de 36 ans, a quitté son village Petron en juin dernier lors des affrontements entre les militaires des FADC et les miliciens de la Codeco. Elle vit aujourd'hui dans une famille d'accueil à Ladejo où elle peine à prendre en charge ses enfants. Elle exprime ici sa joie.
Moi, je vois ici les pannes, les assiettes, je vois les bidons, je vois aussi les nattes. En tout cas, je remercie UNICEF joyeusement et je suis vraiment très fière d'avoir ça.
D'après OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Ituri, près d'1,3 million de personnes victimes des atrocités des groupes armés ont besoin d'aide dans la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilherme, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa. Le ministre des Finances de la RDC nie en bloc les accusations portées contre le gouvernement congolais sur l'exclusivité accordée à Primera RDC pour l'exploitation de l'or artisanal de la RDC. Au cours d'un point de presse du gouvernement hier lundi, Nicolas Kasadi a expliqué que contrairement à ce qui s'est dit, notamment via les réseaux sociaux, depuis la signature du contrat entre la RDC et l'entreprise des Émirats Arabes Unis, la RDC a ajouté les chiffres d'exportation de l'or allant de 27 kilos à 3 tonnes en 8 mois en 2023. Nicolas Kasadi dans ses propos recueillis par Fulbert Balolagué.
C'est vrai, il y a le contrat passé avec Primera, mais ce contrat prévoit la signature d'un décret. Et il a omis de présenter ce décret, qui est là. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation, qui est une entité de l'État congolais. Et l'État le congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut, moyennant une évaluation annuelle de la performance. C'est ça qu'on appelle récupérer notre souveraineté sur des questions aussi essentielles que les minerais. L'alternative, c'est d'avoir 90% du coltan vendu via le Rwanda et au moins 50% de l'or vendu également via le Rwanda ou l'Ouganda. Jusqu'à l'année dernière, 2022, pour cette partie du pays frontalière du Rwanda, Sud Kivu, on parle de 26 à 27 kilos d'or produit. Primera Gold RDC entre en action à partir de janvier 2023 et en à peine 7 mois, On arrive à 3 tonnes exportées dans les statistiques de la RDC, je dirais même plus du Sud Kivu uniquement. C'est une performance énorme pour l'or artisanal.
Retenez que le ministre des Finances répondait aux accusations portées par le député Alfred Maïcha et le Nobel de la paix Denis Mukwege qui dénoncent ce contrat entre la RDC et Primera Gold RDC. Parlons justice à présent. Mwanga Tutu est une victime expiatoire à cause de son ethnie Tutsi. Nous croyons à la justice de notre pays. Nous dénonçons un procès de la haine. C'est par ces mots que le collectif des avocats du député Edouard Mwanga Tutu dit croire que la justice congolaise résistera à toute forme de pression afin d'être au milieu du village et dire le droit dans l'affaire qu'il oppose à l'auditeur général des FADC depuis le mois de mars. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 28 août au CEPAS à Kinshasa. Au terme des audiences et après les réquisitoires du ministère public, la défense du député fait la conclusion de ses procès. Maître Thomas Gamakolo est au micro de Jeff Ngoy.
Toutes les preuves qu'on a tenté d'apporter contre l'honorable Mwanga Tutu s'articulent autour de son appartenance à l'ethnie Tutsi, des loins ou des prêts. Et cela a fait penser au ministère public qu'il peut même se dispenser d'apporter des preuves irréfutables au-delà de tout doute raisonnable. Voilà pourquoi nous dénonçons un procès de la haine et de la stigmatisation basé sur les stéréotypes et l'exclusion. Un procès de discrimination. On veut faire de notre client la victime expiatoire de tous les crimes et autres fautes supposément commis par des Tutsis. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous estimons qu'avec ce procès, notre vivre ensemble et la cohésion nationale sont mis à rude épreuve. Notre client n'étant pas le Jésus-Christ des Tutsis, il ne va pas être puni pour des faits d'autrui.
C'est noté que ce mardi 29 août que le procès de Mwanga Tutu pourra se clôturer avec la plaidoirie attendue de ses conseils. Vendredi, le ministère public a requis contre lui la perpétuité et une amende de 4 milliards et 10 milliards selon la partie civile pour dédommager l'État congolais. La synergie des organisations syndicales et sociales dresse un tableau sombre de la situation socio-professionnelle des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Les membres de cette structure l'ont fait savoir lundi 28 août lors de leur assemblée générale tenue à Kinshasa. Ils ont attribué la précarité de la situation sociale des agents de l'État à l'inexistence d'une politique salariale nationale. Ils ont déploré la pléthore et la non-maîtrise des effectifs des fonctionnaires de l'État congolais. Pour remédier à cette situation, indique leur porte-parole, le gouvernement devra entre autres payer un barème salarial digne en offrant des avantages uniformes pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. Jean Bosco Puna au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Les agents publics de l'État et autres travailleurs des entreprises réunis à l'Assemblée générale demandent au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant les 4 septembre 2023, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et d'autres institutions, de réduire et de rationaliser les dépenses publiques, surtout en matière des émoluments payés aux animateurs des institutions, de structurer les rémunérations qui doivent être transparentes, cohérentes et équitables, de payer un barème salarial digne et offrir des avantages sociaux uniformes pour tous, de respecter et appliquer les normes nationales et internationales en matière de retraite des agents de l'État, de consolider la réforme sur la gratuité de l'enseignement en prenant correctement en charge le personnel enseignant, les inspecteurs d'État.
Ces syndicalistes ont par ailleurs plaidé pour la dépolitisation des entreprises du portefeuille de l'État et l'administration publique. Au Nord Kivu, à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, aucun signe en vue de l'ouverture effective des dizaines d'écoles primaires et secondaires basées dans les territoires de Rutshuru et une partie des Massissi et Nyiragongo. Le mouvement citoyen La Vision pour la Victoire du Peuple, qui déplore la situation, demande au gouvernement congolais de trouver vite une solution. Le coordonnateur de cette structure estime que des milliers d'élèves de ces entités risquent de passer une troisième année blanche. Et cela raison d'un cessez-le-feu qu'observaient les M23 et le gouvernement congolais, plongeant la zone dans une interminable situation de ni paix ni guerre. Maître héritier Gachegou l'a dit ici au micro de Bernardin Nyangui.
Ça fait maintenant 2 ans que les enfants ont déjà perdu, comme Doké l'ignore. Depuis 1998, à l'occupation des forces rwandaises dans plusieurs territoires de la RDC, il n'y a jamais eu des années blanches. Et l'État congolais a assumé toutes ses obligations salariales en faveur des enseignants. Voilà maintenant l'épisode de 1-23 et vient s'enregistrer dans ces 3 territoires. Les politiques prennent cela comme un prétexte pour que les enfants ne puissent pas venir étudier. Nous dénonçons cela parce que non seulement ces territoires sont dans une période de ni paix ni guerre orchestrée par le gouvernement congolais qui ne veut pas donner la paix pour que ces territoires puissent revenir dans les espoirs. Et donc nous demandons à l'État congolais, tous les secteurs, toutes les organisations syndicales de permettre que les enfants reprennent les chemins de l'école. À 1-23, d'abandonner cette intimidation de pouvoir recruter de force les enseignants et les élèves dans les milieux sous son occupation.
Actualité internationale.
Une vaste opération militaire est menée par l'armée nationale libyenne et dirigée par le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar depuis vendredi dernier dans les sud libyens. Cette opération vise, selon l'ANL, à chasser les opposants tchadiens, les terroristes et les trafiquants actifs dans la zone frontalière entre la Libye, le Tchad, le Soudan et le Niger.
L'invité.
La situation sécuritaire reste relativement calme dans les territoires de Walikale 3 ans après le départ de la MONUSCO de cette région. C'est en dépit de la résurgence des quelques poches d'insécurité que connaît le tronçon Logou-Walikale, caractérisé par des braquages et des kidnappings. Dans un entretien exclusive accordée à Radio Capi, le président de la coordination territoriale de la société civile appelle les autorités militaires à une intervention pour consolider la paix. Cet acteur évoque également les causes probables de la résurgence de cette instabilité. Fiston Missona s'entretient avec Gabriel Wamenya.
Piston Missona, bonjour.
Bonjour.
On parle de plus en plus des cas d'insécurité dans les territoires de Walikale, caractérisés par les cas de braquage, de kidnapping. Comment se présente actuellement la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale?
Si on peut parler de l'insécurité dans les territoires de Walikale, on peut aller trop loin, et surtout dans les tronçons de Logou vers Bissié, principalement dans les groupements Wassa. C'est une question que nous continuons toujours à alerter les autorités, que ce soit nationales et provinciale, afin de démanteler ces réseaux avec la collaboration de la société civile et de la jeunesse pour éradiquer ces fléaux-là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a encore un même cas qui venait d'être enregistré dans les tronçons du site minier de Bissi et vers l'aérodrome de Kokoli.
Ici, on voulait savoir la situation sur l'ensemble du territoire.
C'est sûr, il y a la présence des groupes armés, comme vous le savez. Aujourd'hui, on les appelle Wazalendou. Et que ces groupes armés, on peut dire que n'est pas trop nocif comme on peut le présenter dans d'autres territoires où actuellement, il y a au moins 3 à 4 groupes armés qui sont encore actifs. Et qu'à ce niveau, et ces groupes armés sont toujours prêts pour aller dans les processus PDDDRCS, auxquels certains de ces jeunes se sont déjà rendus auprès des FARDC, principalement sont localisés, cantonnés dans la base militaire de Biroué. À l'ensemble du territoire, on peut imaginer qu'il y a des cas, on peut dire, des cas de braquage, on enregistre aussi les cas des petites poches de l'insécurité dans les tronçons, des petites barrières de rançonnement et des tracasseries qui sont érigées ci et là, d'un côté par certains services de sécurité, d'autres part par des groupes armés. Dans l'ensemble du territoire, la sécurité peut être estimée en tout cas à 80% dans la calmie. Et les 20%, on peut dire, c'est dans l'insécurité là.
Alors, quel est le dernier cas d'insécurité qui a été enregistré dans le territoire de Walikale?
En tout cas, nous venons de déplorer un autre cas que nous déplorons beaucoup. C'est le cas récemment qu'on a kidnappé les expatriés, malheureusement de notre société à Alpha Mine Bissi Mining, sur les tronçons qui mènent du site minier de Bissi vers l'aérodrome de Kokoli.
À quoi est dit cette insécurité-là, selon vous, comme acteur de la société civile?
Eh bien, écoutez, il est pour moi difficile de le dire ici. Ça émane de la responsabilité de l'État congolais, en fait, de sécuriser la population de l'air bien, bien sûr, avec la conjugaison de la société civile, de contribuer pour que la paix et la sécurité puissent régner avec la collaboration étroite avec les autorités locales.
Est-ce que, Fiston Missona, vous ne pensez pas que les mécontentements aussi de la population face aux engagements pris par la société Bissi et Mining de réhabiliter les routes et de construire aussi d'autres infrastructures sociales de base dans les territoires de Walikale. Peut-être à la base de cette situation.
À notre niveau, nous en tant que société civile, on peut demander et nous demandons à l'État congolais enfin de faire une analyse approfondie sur cette question en créant un cadre de concertation entre les communautés locales, la société et d'autres parties prenantes dans cette entité pour voir qu'est-ce qui serait à la base de tout ce qui se passe là, qu'est-ce qui pourrait être le plus de solutions pour ces phénomènes-là et par là, ça va nous donner aussi plus de réponses quant à ces. Mais
puisque nous parlons de la société BCI Mining, quelles sont les grandes réalisations de cette société minière depuis son implantation dans les territoires de Walikale?
Il y a eu un cahier de charges qui a été signé par la société avec les communautés locales.
Mais qui n'est pas respecté.
Et, en tout cas, qui n'est pas respecté, nous l'avons toujours mentionné, nous l'avons toujours indiqué. Il y a des lettres et des correspondances que nous avions lancées et fait des alertes auprès de l'autorité compétente afin de tirer les oreilles de la société, respecter les cahiers de charges. Parce que à un niveau, nous constatons qu'il y a un relâchement de la planification des activités. Il y a des choses qui se font qui n'est pas ce qui était prévu dans les cahiers de charges qui s'effectuent maintenant comme l'air bon le semble.
Alors, revenons sur la question maintenant. Quelles sont les grandes réalisations, minimes soient-elles?
Il y a certaines écoles qui sont déjà construites au niveau de là.
Combien?
Il y a déjà à peine 4 qui sont
bien équipées.
Oui, parce que il y a le banc, il y a les kits solaires, il y a aussi les kits informatiques pour le bureau.
Fiston Missona, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par cet invité que nous mettons un point final à cette édition du journal, supervisée par Martin Sebou Djangwe, la coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de l'avoir écouté.